Radio Kapi.
Les informations, Lévin Bouinga.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. À la une de l'actualité, ce cri d'alarme du Front commun pour le Congo, cette plateforme proche de Joseph Kabila, dénonce l'enlèvement du ministre honoraire des Mines, Martin Kabwelulu, et son épouse jeudi à 3h du matin dans sa résidence ici à Kinshasa. Le FCC exige leur libération immédiate et sans condition. Vous suivrez le député honoraire Moussa Kalema. Dossier 400 bus bloqués à Matadi depuis 2023 pour non-paiement des frais de transport depuis leur embarcation en Corée jusqu'à Matadi. Le coordonnateur de ce programme monte au créneau, Sylvain Lemba Kissindou, demande au gouvernement de se pencher sur cette question en vue de résoudre le problème de transport urbain dans la capitale. L'invité de ce journal est M. Alphonse Paloukou, DG des établissements Maison du Miel à Goma et président des apiculteurs au Nord Kivu. Il appelle le gouvernement à appuyer le secteur, cela en marge de la commémoration de la Journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai de chaque année. Mais l'actualité de ce soir est d'abord focalisée sur le dossier concernant la levée ou non des immunités du président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État de la RDC qui est poursuivi pour crimes de guerre et complicité avec l'AFC M23. Le Sénat siège en ce moment même en direct à la télévision nationale, prévue à 14h. C'est à 17h que la plénière a réellement commencé, ce après 20 minutes de l'entrée du bureau du Sénat dans la salle de conférence internationale. D'après nos sources, la plénière a été retardée en attendant la transmission par l'auditeur général des preuves, des audios et images attestant la complicité de Joseph Kabila avec l'AFC M23 telle qu'exigée par la commission spéciale. Par ailleurs, jusqu'à 17h30, le protocole procédait à la distribution aux sénateurs du rapport de la commission spéciale mise en place pour examiner le réquisitoire de l'auditeur militaire sur la levée des immunités et poursuites contre le président Kabila. Et puis cette autre actualité, le Front commun pour le Congo dénonce l'enlèvement d'un de ses cadres et ministre honoraire des mines, Martin Kabwelulu, avec son épouse. Les faits se sont déroulés ce jeudi à 3h du matin dans sa résidence ici dans la capitale. Selon un communiqué publié par le comité de crise du FCC, l'ancien ministre des mines serait enlevé par des hommes armés qui l'ont embarqué dans leur jeep vers une destination inconnue sans aucun motif. Un des cadres du FCC est président du parti leader des vertus républicaines appelle à la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. Le député honoraire Moussa Kalema plaide ainsi pour la garantie de droit de la défense. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le FCC dénonce et déplore l'enlèvement du ministre honoraire camarade Kabwelulu Martin et son épouse la nuit du 21 au 22. Ils approuvent ces méthodes barbares et même sauvages qui apparentent au terrorisme d'État auquel font recours ces appelés à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette brutalité et persécution qui apparente au terrorisme d'État que subissent le résistant de FCC et les autres membres de l'opposition doit prendre fin. C'est pour ces motifs. Nous exigeons que la libération de Martin Kabwelulu et de son épouse sans condition soit immédiate. Il va sans dire que nous tiendrons pour responsables les régimes au pouvoir pour toute conséquence qui adviendrait sur ces coupes exemplaires. Et nous invitons les pouvoirs à protéger la liberté des mouvements, la liberté d'expression.
Un nouveau palais de justice à Kalemi, ce bâtiment moderne a été inauguré hier mercredi dans cette ville du Tanganyika par le ministre de la Justice. Cet édifice a été construit par le PNUD dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies pour l'appui à la réforme de la justice avec le financement du gouvernement suédois. Pour le ministre, ce nouveau palais de justice doit rassurer les justiciables. On écoute Constant Mutamba dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Il faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables. parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Donc chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats de la province de Tanganyika à bien l'entretenir pour éviter les fissures, pour éviter qu'ils soient délabrés dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent.
Le directeur général de l'Office de voirie et drainage face aux députés nationaux, c'était hier mercredi à l'Assemblée nationale. Il répondait ainsi à une question orale avec débat. La députée nationale Dolly Chilombo qui fustige la dégradation très avancée de la voirie urbaine à Kinshasa, le bouchage des caniveaux et les inondations dans la ville, veut des explications de l'OVD. Pour sa part, le directeur général de cet office, Victor Toumba, évoque le manque de moyens de sa politique comme raison à tous ces problèmes. Une réponse, lui, loin de convaincre les élus du peuple. Un reportage de Michel Kifidangoy rendu ici par Grace Amzati.
Dans sa question orale avec débat, le lit de Tchang veut avoir des réponses claires de l'OVD sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet préoccupant au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Dolly Chilombo.
Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa?
Dans ses éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu reluisant des voiries de la RDC avec 85% des voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé. Le problème de financement et la transversalité de la question de la voirie sont parmi les difficultés, avance Victor Toumba.
1. Inexécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier.
Des arguments qui n'ont pas convaincu les députés dont les interventions se départagent entre des appels à la démission et à la transformation de la question orale à l'interpellation. L'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation des voiries, les détournements des fonds destinés aux routes, la durée des vies relativement courte des routes réhabilitées, autant des préoccupations des élus du peuple sur cette problématique importante. Pour rencontrer toutes ces préoccupations, un délai de 48 heures a été accordé au DG de l'OVD, Victor Toumba.
On poursuit ce journal. Secteur de transport à présent, 400 bus du programme gouvernemental Esprit de Vie sont bloqués au port de Matadi dans le Congo central. Information confirmée par le coordonnateur de ce programme qui est reconnu par le ministère des Transports. À la base de ce problème, le non-paiement des frais de transport de ce bus depuis leur embarcation à partir de la Corée jusqu'à Matadi, selon Silva Lemba Kisindu. Il indique avec regret que c'est depuis 2023 que son institution n'arrive pas à posséder ces bus pour les mettre en circulation en vue de contribuer à la résolution des problèmes de transport urbain à Kinshasa. Détail avec Askin Zibiatayoro.
Du mois de mars 2023 au mai 2025, ça fait 2 ans et 2 mois que les 400 bus en question traînent dans l'entrepôt du port de Matadi sans être dédouanés. Sylvain Limba Kisindu, coordonnateur du programme Esprit des Vies, n'en revient pas. D'après lui, la libération de ces bus nécessite quelques paiements au niveau des douanes. En termes clairs, selon ses partenaires du ministère de Transport, c'est l'État congolais qui a commandé ces lots de bus. Il y revient au gouvernement de payer les frais de transport de ces bus depuis leur embarcation à partir de la Corée jusqu'à Matadi. Et de surcroît, payer les frais d'entreposage, l'unique obstacle qui bloque encore le dédouanement complet de ces bus. Pour Sylvain Limba, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba s'est saisi du dossier depuis le mois d'avril de cette année pour décompter la situation.
Donc dans les jours qui viennent, vous aurez vos 400 bis pour les comptes du programme Esprit des Vies. Il nous reste le paiement des 3 factures grâce aux capacités managériales de Jean-Pierre Bemba. Il a déjà écrit au ministre des Finances pour les paiements des factures.
Quelques Kinois informés de la présence de ces bus au port de Matadi se demandent si ces véhicules, une fois arrivés à Kinshasa, vont rouler sous quel état de route.
Enseignement, bientôt la paie des enseignants de la province éducationnelle Maïndombe 3 ne connaîtra plus de retard que déplorent les professionnels de la CRE. Cela à la suite d'un accord conclu entre le gouvernement congolais via l'intersyndicale et l'agence de paie La Colombe. Après négociation, cette agence s'est dit favorable pour s'installer dans la province du Maïndombe et en plus de prendre en charge la paie de ses enseignants jadis payés par Caritas. Cette solution crée évidemment la joie des enseignants et du président de l'intersyndicale des professionnels de la CRE de cette juridiction. Giscard Mbukela, qui revient de Kinshasa pour ses pourparlers, dénonce en même temps le non-paiement des salaires de deux derniers mois. On l'écoute dans cet extrait choisi par Irène Boma Luzolo.
C'est pour des retards des salaires des enseignants et puis il manque des banques payées. C'est pour cette fin que je suis parti à Kinshasa en tant que syndicaliste pour plaider la cause des enseignants afin que la paie devienne régulière et deuxièmement qu'on puisse avoir une fiche d'une agence qui puisse s'installer dans notre province pour que la paie des enseignants puisse très bien être assurée et puis à temps. Nous avons parcouru plusieurs banques et plusieurs agences à Kinshasa, mais il y a eu l'agence Colombe qui a accepté d'abord de venir s'installer dans la province de Maïndombe en ouvrant pour un premier temps trois agences, à Nyoki, à Bokopu, à Oshue, et cette même agence Colombe a accepté de prendre les salaires des enseignants de la province éducationnelle Maïndombe 3, c'est-à-dire territoire de Koutou et territoire d'Oshue, pour qu'ils puissent commencer à payer ces enseignants-là qui étaient chaque fois en retard quand on était encore ailleurs. On a beaucoup souffert. Au moment où nous parlons, les enseignants de la province éducationnelle Maïndombe 3 ne sont pas payés. Aujourd'hui, là, il y a 2 mois de retard. Mais le message d'assurance, c'est que les enseignants doivent être sûrs et certains que leur souffrance ne reste que quelque chose à compter au bout des doigts. Et bien, là, ils seront payés à temps réel. La province éducationnelle Maïndombe 3 ne sera plus cette province où les enseignants passaient 4 mois, 3 mois sans salaire.
Autre nouvelle, la synergie des syndicats des médecins et techniciens vétérinaires du Congo plaide pour l'extension de la campagne contre les maladies animales et zoonotiques dévastatrices à impact économique élevé dans plusieurs provinces, sur tout le territoire national. Dans un point de presse tenu hier mercredi à Kinshasa, le coordonnateur de cette synergie signale avoir été saisi par des éleveurs de plusieurs plaintes sur la disparition des animaux domestiques dans le pays quelques mois après le lancement de cette campagne prévue seulement dans 5 provinces, notamment au Kwilu, Kwango, Congo central, Lualaba et Okatanga. Docteur Jean-Benoît Miziela Mparawa évoque une action de riposte louable, salutaire et encourageante pour la santé animale, privilégiant les ressources dont la RDC a besoin, notamment issues de l'élevage, la pêche et halieutique. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous demandons vivement à Madame la Première Ministre d'appuyer davantage le ministère de pêche et élevage avec un budget conséquent pour étendre la lutte et la riposte contre les maladies animales dévastatrices à impact économique élevé dans les autres provinces restantes. Cette opération de la vaccination décrétée par le gouvernement revêt un caractère important, hautement stratégique, pour le maintien de la santé et production dans les heures des exploitations animales en conférant une immunité permanente face aux différentes maladies animales émergentes et réémergentes diagnostiquées dans notre pays. Ainsi, nous demandons au gouvernement central le respect de l'application stricte du calendrier de la vaccination et la réhabilitation de l'outil de production des vaccins que le laboratoire vétérinaire central, qui est détenteur d'une expertise à cette matière, et disposant des sources vaccinales appropriées.
En vue de leur contribution à la réussite de cette campagne, la synergie des syndicats des médecins et techniciens vétérinaires du Congo demande aussi au gouvernement l'alignement de 500 techniciens vétérinaires conformément aux derniers accords en souffrance jusqu'à présent. Sud Kivu, les sinistrés de la pluie du 9 au 10 mai dernier dans le territoire de Fizi peinent à reprendre le rythme normal de la vie. Ils sont toujours sans abri, sans nourriture et manquent des soins médicaux. Mais ils ont quand même été soulagés, tant soit peu, par la récente visite du vice-ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de province, Jean-Jacques Pourouzi, et l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, étaient dans la suite du vice-ministre à Kasaba. On écoute Sami Badibanga dans ses propos recueillis par Radio Okapi.
Nous avons trouvé même certains cadavres qui gisent encore sous le sol, l'odeur nauséabonde qui nous arrivait témoignait de l'ampleur de ces désastres humanitaires. Voilà que le vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières a présenté ses condoléances le plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Il a expliqué que sa mission était de venir évaluer le dégât causé par cette catastrophe naturelle. Et les familles ont été visitées. Le ministre a promis que prochainement, il y a une forte délégation à la tête la ministre des affaires sociales. On sera à Kassava, va amener un lot important d'aide, essentiellement de vivres et non-vivres, pour soulager tant soit peu cette population qui a perdu presque tout. Nous avons trouvé un village qui essaye de renaître de ses cendres. Le vice-premier ministre, au nom du chef de l'État, a présenté ses condoléances le plus attristées et la délégation est retournée.
Au chapitre sécurité, de violents combats ont opposé les Ouazalendo aux rebelles de l'AFC M23 hier mercredi dans les périphéries du parc national de Kaouzi-Biégan, territoire de Kabaré. Conséquence, de nouvelles vagues de déplacés ont été enregistrées. Le village de Kabouchoua s'est vidé de sa population. Seuls les rebelles de l'AFC M23 sont visibles dans cette agglomération d'environ 10 000 habitants.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un ancien ministre de la Justice sous Macky Sall, inculpé pour tentative de corruption et assigné à résidence sous bracelet électronique. Ismaïla Madior Fall est le deuxième ancien membre du gouvernement de l'administration sortante à être inculpé par la Haute Cour de Justice, une juridiction spéciale entrée en fonction en début d'année, habilitée à juger les présidents et ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
L'invité.
Alphonse Paloukou, directeur général des établissements Maison du Miel à Goma et président des apiculteurs du Nord Kivu, appelle le gouvernement à davantage appuyer le secteur de l'apiculture et les investisseurs étrangers à injecter leurs capitaux dans cette culture en RDC. Il intervient comme invité de ce journal en marge de la commémoration chaque 20 mai de la Journée mondiale des abeilles. Il s'entretient ici avec Billy Ivan Lutumba. Suivez.
Monsieur Alphonse Paloukou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il s'ouvre ce 20 mai le deuxième forum international d'action pour une apiculture et une pollinisation durable à Djima, en Éthiopie. Et cela coïncide avec la Journée mondiale des abeilles. Quel état des lieux que pourrait présenter la RDC à une telle rencontre, tenant compte des réalités de la province du Nord Kivu et de vos partenaires d'autres provinces?
C'est l'image d'un pays où il y a plein d'opportunités dans le secteur d'apiculture. Nous avons une immense forêt naturelle primaire, la forêt du bassin du Congo, et une autre forêt qu'on retrouve dans les parcs nationaux, surtout à l'est. Et sur cette terre-là, il pousse régulièrement des plantes qui fleurissent presque toute l'année. Et cela fait qu'il est possible de récolter le miel durant toute l'année. Un exemple concret, c'est la province du Nord Kivu, où il y a 4 récoltes l'année. Donc chaque 3 mois, c'est on récolte du miel. Deuxième image que la RDC présente, c'est la qualité de la variété des abeilles qu'on retrouve, des espèces, les sous-espèces des abeilles qu'on retrouve dans la République démocratique du Congo. Des abeilles dynamiques qui ne sont pas victimes de maladies connues dans d'autres pays ou bien dans d'autres coins du monde. Et c'est une richesse souvent oubliée, mais qu'on retrouve en République démocratique du Congo. Parce qu'en allant de l'ouest vers l'est, on traverse 3 zones agroécologiques qui correspondent à la végétation et qui correspondent aussi aux différentes sous-espèces des abeilles qu'on retrouve. Et cela permet aussi que le pays produise un miel de qualité exceptionnelle au regard de sa végétation.
La province du Nord Kivu faisait face il y a quelques années à des difficultés d'évacuation de la production locale de miel. À ce jour, y a-t-il inversement de la tendance ?
Effectivement, la province du Nord Kivu fait face à des difficultés d'évacuation vraiment des produits locaux de la ruche, le miel et les autres produits. À ce jour, la tendance n'a pas vraiment changé. parce que avec la partition de la province, c'est vraiment difficile d'évacuer les produits vers les centres de consommation, les centres urbains.
Quels sont les principaux défis auxquels le secteur de l'apiculture est confronté dans notre pays, Monsieur Paloukou?
Les défis sont vraiment énormes pour le secteur d'apiculture dans la province du Nord Kivu et même dans les provinces voisines comme le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema. Le principal défi auquel nous faisons face, c'est d'abord des conditions sécuritaires insupportables. Le deuxième défi, c'est la vétusté du matériel de production. Les ruches ont vieilli et là, ça devient compliqué pour les apiculteurs, ainsi que d'autres matériels comme les tenues qui sont aujourd'hui déchiquetées. Il y a les enfumoirs, il y a d'autres matériels vraiment qui ne sont pas à la hauteur d'une activité vraiment réussie d'apiculture. Et cela aussi est aggravé avec les poudres à canon, les gaz des bombes qui sont émis lors des différentes attaques et les abeilles SM de temps en temps. Un autre défi, c'est les services étatiques. Ils ont abandonné vraiment le secteur. Les apiculteurs n'ont plus personne qui les suit par derrière pour les appuyer en conseil, en technique et en autres.
Dans tout ce que vous faites, quelles sont les initiatives apicoles innovables qui peuvent être concrétisées en termes de voies de sortie ou pistes de solutions?
L'apiculteur A1 de la RDC, nous sommes vraiment unis de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous avons un même langage et nous parlons de l'apiculture congolaise. Et alors, la première initiative innovante, c'est la présence d'un comité de pilotage pour la formalisation de l'apiculture dans notre pays, qui est constitué du secteur privé et des acteurs étatiques. Deuxième initiative, c'est le regroupement des apiculteurs dans les coopératives d'apiculteurs.
Quelles sont les recommandations qui pourraient être formulées à l'endroit des apiculteurs et au gouvernement?
Nous recommandons d'abord aux apiculteurs d'améliorer les pratiques apicoles, adopter des pratiques et des techniques qui sont capables de nous fournir un miel de qualité produit en République démocratique du Congo. Nous recommandons que le gouvernement congolais investisse, appuie le secteur, formalise le secteur pour inscrire notre pays sur l'échiquier des pays producteurs du miel dans le monde.
Monsieur Alphonse Paloukou, merci.
C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête des abeilles à tous les apiculteurs, les amis de la nature et à tous les autres du monde entier.
Voilà, nous étions à la découverte de la vie des abeilles en RDC. C'est par cette richesse que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Martin Sebujangwe, Jude Mister Bilanda et Billy Landry Betou. Bonne soirée à toutes et à tous.